Et merci d'écouter Radio Shalom Bourgogne, le 97.1. Peut-être que vous nous rejoignez en écoutant la bande FM, peut-être que vous nous écoutez dans votre voiture, en DAB+, ou même sur Internet, sur votre téléphone, votre application, qui sait. Je suis ravi, très content aujourd'hui, puisque j'accueille Anouar, bonjour.
Bien le bonjour.
Alors tu réalises ton service civique.
Exactement.
Sur notre antenne, tu nous as rejoint là au mois de septembre 2025, donc c'est tout frais. Toi, tu fais des études de musique au conservatoire, mais c'est pas moi qui vais te présenter. Je te laisse te présenter à nos auditrices et nos auditeurs, et puis tu nous parleras de ta future émission là, qui arrive.
Alors du coup, bah, je me représente, je m'appelle Anouar, j'ai 20 ans, je suis au conservatoire donc, de Dijon. Je suis en études de piano en section jazz, et du coup, je vous ai rejoint, donc, comme tu l'avais dit, en septembre 2025 pour réaliser un service civique. Et actuellement, je réalise la première émission, La Voix du Jazz, dont le premier épisode va aller sur donc, l'histoire du Negro Spiritual. Et du coup, voilà, je suis ravi d'être arrivé en bonne compagnie dans Radio Shalom.
Donc toute une série d'émissions autour du jazz avec un grand J, et puis on peut peut-être le mettre au pluriel. Et ben merci beaucoup.
Et ben merci à toi.
Et très bonne émission, merci.
Le Negro Spiritual est un courant musical datant de la même période que le blues et le ragtime, donc de la fin du 19e siècle et début 20e siècle. Comme pour le blues et le ragtime, le Negro Spiritual s'inspirait des chants africains des esclaves, qui importaient leur musique et leurs coutumes, mais une grande partie est détruite de par la suppression de langues natives et de croyances africaines à cause de la séparation des familles et tribus sur les marchés d'esclaves. À cette époque-là, les instruments africains étaient interdits dans certains états, et notamment les tambours qui pouvaient être utilisés comme signal de révolte. On peut ainsi dire que le peuple afro-américain est né dans ce qu'on appelle un génocide culturel. Le meilleur moyen à cette période était de reconstruire une base sur l'acculturation entre la musique africaine et la musique qui leur était imposée. On peut voir aussi qu'il y a une différence avec la population noire déportée aux Caraïbes et en Amérique latine, où là ils ont pu garder leurs traditions et perpétuer leurs rites. Ce qui leur a permis de préserver les mélodies, les rythmiques traditionnelles et surtout leurs instruments. J'avais cité le cas de l'interdiction de l'import et de l'utilisation des instruments d'origine africaine. Mais au nord des États-Unis, ces instruments peuvent être utilisés car ils ont le droit, mais comme cité précédemment, ce n'est pas pour envoyer un signal de détresse, mais pour des jours de fête, comme la Pentecôte ou en anglais Pinkster Day, qui était la fête de la communauté afro-américaine. Mais celle-ci ayant disparu, le rythme du jeu sur les tambours a été préservé et joué sur le Congo Square, dans le quartier de Beauregard Square à la Nouvelle-Orléans. Ces fêtes avaient lieu tous les dimanches, et cette fête a toujours lieu aujourd'hui, comme par exemple cette année en 2025, le 29 et 30 mars de cette année, qui est présentée par le New Orleans Jazz and Heritage Foundation, où ils ont exploré l'histoire d'Economy Hall, et comment l'héritage de cette institution a pu être préservé jusqu'aujourd'hui. On peut voir aussi du côté des récits ou des journaux du 18e et 19e siècle, qui fournissent des exemples de folklore chanté aux champs de plantation. Les auditeurs sont étonnés de la singularité des habitudes rythmiques, mélodiques et du grain de la voix. Et surtout qu'il y a aussi un très grand engagement au niveau du corps dans la pratique musicale. On peut citer par exemple le banjo, un instrument qui est passé à la trappe des interdictions promulguées par les esclavagistes. Originaire d'Afrique, le banjo a commencé à être l'ekonting, un instrument provenant de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément, toujours présent au Sénégal, au Gambie et en Guinée-Bissau. Il est toutefois difficile de trouver des sources écrites, que ce soit des sources africaines, arabes ou européennes. Il convient de s'appuyer sur des sources orales. L'ekonting sera apparu dans le pays de Diola, dans le village de Kanjankam, en Casamance, au Sénégal. Le processus de fabrication de l'ekonting se base sur une calebasse, une peau d'animal et une manche en bois sur laquelle on attache des cordes en boyau. La manière dont cet instrument est joué est de haut en bas, avec le dos de l'ongle. C'est une technique qui est toujours utilisée sur le banjo. Pour en revenir sur le sujet initial, vers les années 1820, certaines personnes blanches, dans un lieu se nommant l'African Groove, un théâtre réservé aux Afro-Américains dans la ville de New York, se retrouvaient en fait dans ce théâtre pour écouter de la musique classique, mais pour voir aussi comment les Afro-Américains pouvaient interpréter du Shakespeare. Et c'est là en fait que dans ces types de théâtres-là, les Afro-Américains rentraient en fait dans ce théâtre pour non pas écouter de la musique classique, mais pour écouter en fait de la musique qui les rapproche de leurs origines, entre donc les transitions en fait de scène ou dans les transitions des actes. Ça a permis aussi aux Afro-Américains d'écouter leurs chants ancestraux. Mais ça n'empêche pas du coup l'abolition de l'esclavage, donc le 1er janvier 1863, Contrairement à Cuba où les populations noires ont pu se regrouper selon leurs origines ancestrales et créer une communauté, les Calbidos, qui perpétuent les traditions et les codes musicaux d'origine. Le phénomène de disparition des origines ethniques africaines permettra de créer un nouveau genre de musicaux en fusionnant les formes musicales européennes et la musique folklorique africaine. Évoluant de génération en génération, le blues comme le jazz en général ont hérité de certaines caractéristiques du negro spiritual. L'investissement physique, où on est généralement frappé par la capacité d'improviser. Le chanteur réinvente constamment son timbre. Passage de voix de tête en yodel, passant de sortes de grognements aux cris de plainte, dont le terme en anglais est moaning. Il a aussi toute forme de liberté, il réinvente la mélodie du thème, il choisit même le placement des paroles, mais aussi la rythmique. Même lorsque le chœur chante, certains chanteurs se permettent de changer la mélodie, ce qui installe une sorte de dialogue entre le chanteur individuel et le chœur. Ce qu'on peut retrouver par exemple entre un bluesman et sa guitare, ou un soliste avec l'orchestre. On ressent une régularité au niveau de la rythmique qui est surprenante, et à la fois déroutante par les effets de syncope, les mains qui indiquent un contretemps, c'est-à-dire un temps faible, et l'épée qui indique le temps fort. Cette façon de répartir les accents peuvent rappeler celui du tambour lorsqu'il est joué sur différentes parties de la peau, ou même la distribution rythmique des timbres sur la batterie jazz avec le charleston joué en contretemps, et dont le terme en anglais est afterbeat, signifiant contretemps. Afterbeat est une technique utilisée par les batteurs jazz avec le charleston, marquant le deuxième et le quatrième temps d'une musique. On peut par exemple citer Elijah Rock de John Littleton. Elijah Rock, shout, shout, Elijah Rock coming of the Lord. Elijah Rock, shout, shout, Elijah Rock coming of the Lord. Shout, shout, Elijah. Cette création de John Littleton a été créée avec la participation de l'ensemble vocal, a été créée avec Bernard Lablo, Agnès Sarkis, Virginia V et les compagnons du Jourdain dans l'album Les plus célèbres Negro Spiritual datant de 2010. Mais pour en revenir sur le Negro Spiritual, en général il s'agit de pièces entraînantes ou de ballades où les observateurs ou les auditeurs sont troublés par les mélancolies qui se dégagent des morceaux se reposant sur des gammes majeures. Associé traditionnellement dans le monde occidental au sentiment positif, mais avec une présence d'instabilité au niveau mélodique, ce qui peut s'apparenter à la blue note. La blue note en fait est une superstructure dans laquelle on joue une sorte de fausse note pour approfondir l'expression des émotions comme la mélancolie, la nostalgie ou la tristesse, ce qui enrichit la musique. La prochaine partie donc de la présentation du Negro Spiritual avec le titre de la protestation à la spiritualité. À cette époque-là, n'ayant pas de droit civique, c'est dans la foi que les Afro-Américains placent tous leurs espoirs, notamment dans les églises, là où la musique afro-américaine prend naissance. Pour situer le contexte, le tout premier baptême pour un Afro-Américain attesté et avéré date de 1641. Les prêtres blancs se souciaient de l'instruction des esclaves. Alors ils prennent l'initiative de leur apprendre les psaumes selon le principe de leaning out, une technique de chant datant du XVIIe siècle et principalement présente dans les églises catholiques, protestantes. Leaning out signifie en chant. Leaning out signifiant chant en ligne ou chant dirigé est un chant a cappella où un meneur chante une ligne d'un hymne avec l'assemblée il la répète. Ce style de chant trouve ses origines au XVIIe siècle, comme dit précédemment en Grande-Bretagne, en Écosse et en Amérique du Nord. Apporté par les colons britanniques et écossais dans les colonies américaines, le leaning out se répand dans les églises presbytériennes et baptistes. Ce type de chant se caractérise par un jeu plutôt lent, souvent improvisé, avec des variations faites par certains chanteurs, ce qui apporte une texture au niveau du chant plus expressive et plus émotive. Favorisant une sorte de communion spirituelle, le leaning out peut s'apparenter au chœur africain, où le principe d'un chant, fait par un leader et répondu par le chœur, y était. On peut comparer ces deux styles avec par exemple le groupe Ladysmith Black Mambazo, provenant d'Afrique du Sud, avec le morceau « Isitemela ».
Ah, sistimela sambile, oui baba.
Ah, sistimela sambile,
oui baba.
Si ale nambi,
ukala bonam.
Bayo salabe ko,
ukala njalo.
Bayo salabe sitabugela.
Ah, sistime la sambile, oui baba.
Na sistime la sambile,
oui baba.
Si ale nami,
bukala bunama.
Ayo salabeka,
bukala njalu.
Ayo salabesita, si ale nami.
Joué pour la première fois en 1998 lors du Cologne Zulu Festival, hors d'Afrique du Sud, dans des conditions où l'apartheid était déjà sur sa fin dans la moitié des années 1990, lors de la libération de Nelson Mandela en 1990, après 27 ans d'emprisonnement, le groupe Ladysmith Black Mamba sort son album en 1996, Live in Kiniso, où le dernier morceau, Ezekifi Inkululeko, signifiant la liberté est enfin là, célèbre la fin de l'apartheid. D'après Joseph Chabalala, chanteur, musicien et fondateur du groupe Ladysmith Black Mambazo, Nelson Mandela déclara que le groupe était des ambassadeurs de la culture africaine. Pour en revenir, on peut comparer ce groupe à un hymne de chant de confession baptiste provenant du Kentucky, chantant « I am a poor pilgrim of sorrow ». Traduit en français « Je suis un pauvre pèlerin triste », c'est un chant qui prend racine dans les traditions afro-américaines avec les hymnes de lamentation, de l'esclavage et de la quête de la rédemption. Ce chant exprime la douleur d'un pèlerin errant, rejeté par le monde et inspirant à aller au paradis. Il y a à la fois une prière, une plainte, mais aussi une déclaration de foi, traversant les siècles et préservant jusqu'à aujourd'hui sa puissance sur le plan émotionnel et spirituel. Composé en 1919 par Charles Tindley, un pasteur méthodiste et compositeur autodidacte, né d'un père esclave et d'une mère libre, il est considéré comme un pionnier du gospel moderne. Ce morceau, aussi nommé Pilgrim of Sorrow, donc en français « Pèlerin de la souffrance », s'inspire aussi des épreuves que la communauté afro-américaine a pu vivre et de la condition de vie des afro-américains post-esclavagistes. À partir des années 1780, les églises noires indépendantes se multiplient au nord des États-Unis, telles pour exemple l'African Baptist Church de Savannah en Géorgie. Et c'est en 1801 qu'est édité le recueil A Collection of Hymns and Spiritual Songs from Various Authors, rassemblant la plupart des hymnes et chants protestants très appréciés de la communauté afro-américaine. Mais au fil du temps, ils prirent plus de liberté dans la pratique des lingues out et avec les hymnes, leur permettant d'adopter des airs plus entraînants, plus faciles à retenir. Par lequel ils ajoutent des refrains s'inspirant du quotidien, ayant parfois un double sens. Le Jourdain désignant le Mississippi, et la terre promise dans les États du Nord, avec comme nom de code Jérusalem et Jéricho, qui désigna à cette époque les routes à suivre pour les personnes fuyant les États du Sud. Si au niveau harmonique les hymnes protestants gardaient leur signature mélodique, l'acculturation avec la chorale africaine permet à la communauté afro-américaine d'installer des habitudes musicales comme l'altération du timbre de la voix, l'implication du corps comme le claquement des mains, prendre des initiatives spontanées des participants dans le chœur, et installer une pulsation rythmique et vigoureuse avec des syncopes assez ambiguës et surtout des altérations au niveau de la mélodie avec les blue notes. Ce courant prend de l'ampleur à partir du second réveil américain. Pour faire une petite parenthèse, le second réveil américain se passe entre les années 1730 et 1760. À cette période, les églises protestantes étaient souvent perçues comme froides, élitistes et peu engagées dans l'évangélisme. Le but à cette époque était de raviver la foi chrétienne chez les fidèles, la piété et engager une expérience émotionnelle et spirituelle avec Dieu. Le second réveil américain, donc entre 1790 et 1840, arrive peu après la Révolution américaine, donc entre 1775 et 1783, qui entraîna plus tard la guerre d'indépendance. Le second réveil américain avait pour but de réaffirmer la foi chrétienne dans une société en pleine mutation, due à un abaissement de la pratique religieuse, en y ajoutant une touche de moralité, de réforme sociale et d'une évangélisation de masse. L'une des icônes de ce mouvement est Charles Grandison Finney, un prédicateur influent, promoteur de la conversion volontaire et de l'activisme chrétien. L'une de ses caractéristiques qui en fait une personne influente est qu'il provoque une naissance de certains mouvements sociaux comme l'abolitionnisme, la tempérance, et surtout, il crée des réformes pour les prisons. On peut considérer qu'à cette époque-là, Son but était plutôt de créer des lieux de réhabilitation et non de punition, avec en plus des réunions religieuses et des campagnes contre les châtiments corporels pour avoir des conditions de détention qui sont plus humaines. Et sur le plan de l'éducation, il crée la toute première université, Oberlin College, qui accepte les étudiants afro-américains et des femmes. C'est donc comme ça en fait qu'on peut voir que son reflètement vis-à-vis de son engagement pour la justice et pour son égalité le met en avant dans les communautés afro-américaines. Il en fait aussi la promotion de l'alphabétisation pour que chaque individu puisse lire la Bible et réfléchir par lui-même. Et pour en revenir, les camp meetings ont émergé comme une forme emblématique du rassemblement religieux populaire au cours duquel les Américains et les Afro-Américains se réunissaient dans des clairières pour prier pendant plusieurs jours. Et à partir d'ici, c'est à partir d'ici en fait que le nouveau genre des hymnes se fige sous le terme spirituals. Il y a eu les white spirituals et les negro spirituals. Ce qui stupéfie la population blanche, c'est la conviction que mettent les Afro-Américains dans leur chant, mais aussi le ring shout, une danse cérémoniale qui peut-être est un héritage de danse africaine où les Afro-Américains tournaient en rond dans un état qu'on pourrait qualifier de transe. Leurs pas glissaient, donc le shuffle step, frottaient bruyamment le sol et rythmaient le chant tout en accélérant le rythme pendant des heures. Et c'est à ce moment-là qu'on va commencer à parler donc de la philharmonie noire et des minstrels blancs. Suite à ça, on remarque aussi qu'à cette période, les esclavagistes, qui étaient pour la plupart des protestants puritains, tenaient à l'écart les esclaves dans le monde de la musique. Ils ont décelé chez les Afro-Américains un potentiel musical qui leur confia l'animation dans le domaine de la musique. Et c'est dès le XVIIe siècle qu'on pouvait voir des annonces de musiciens esclaves dans la presse sous les rubriques « à vendre » ou « recherche esclaves évadés ». Pour la plupart, ils étaient violonistes, mais suite aux guerres successives, ils étaient appelés à jouer dans les orchestres militaires, avec notamment les instruments comme le fifre, donc, qui est un instrument à vent, joué dans les fanfares, avec d'autres instruments comme le clairon ou le tambour. Les premiers fanfares afro-américaines sont apparues au début du 19e siècle, et les orchestres à danser se sont développés, avec notamment la joue donc, de clarinette et de cornet. En général, il y avait deux ou trois violons, des violoncelles, un triangle, un tambourin et une grosse caisse. Au milieu du 19e siècle, à New York, dans les quartiers pauvres de Five Point, la musique afro-américaine ne procure pas énormément d'effets auprès des visiteurs contrairement aux orchestres jazz. Mais pour autant, ils avaient leurs références dans les différents domaines de la musique. Leur chanteuse, Elizabeth Taylor Greenfield, surnommée The Black Swan, le cygne noir. Leur enseignant, Newport Garnier, et le multi-instrumentiste Frank Johnson. Et leur théâtre, la Fuchan Groove, mais aussi une société philharmonique à la Nouvelle-Orléans. Cette maîtrise de la musique occidentale n'est pas très appréciée chez les Blancs, en tout cas chez les protestants puritains, mais ils préféraient souvent les voir jouer leur propre style de musique. Même si ce type de musique était présent dans la scène américaine, ça n'empêchait pas que la visibilité de ce type de musique soit en retrait par rapport à la scène européenne. Mais ça n'arrête pas le fait que l'Amérique blanche soit fascinée par le monde afro-américain, et que les acteurs blancs de l'époque se peignaient en noir pour interpréter le répertoire des plantations. On les appelait les minstrels, créant par la suite des petites troupes ambulantes, les minstrels shows. Ce mouvement s'éparpilla dans tout le pays et fait sensation avec des sketchs et des chansons. Ce type de spectacle tournait en dérision les noirs représentés sous des caractéristiques physiques stéréotypées, les grosses lèvres, maladroits ou un comportement assez naïf. Leur instrument favori était le banjo à 5 cordes, se popularisant dans les d'Angleterre victorienne et devient plus tard un instrument privilégié dans le monde paysan nommé les Appalaches. Enfin voilà, notre voyage au cœur du Negro spiritual touche à sa fin. Ces chants nés de la douleur mais porteurs d'espoir ont traversé les siècles pour devenir des symboles puissants de résilience, de foi et de liberté. En écoutant ces voix venues du passé, nous avons entendu bien plus que des mélodies. Nous avons entendu des histoires, des prières, des cris de cœur. Et le Negro spiritual n'est pas seulement une musique. C'est une mémoire vivante, un héritage universel. Merci de nous avoir accompagnés dans cette exploration, que ces chants continuent à résonner en nous, comme un rappel que même dans l'obscurité, la lumière peut jaillir. À très bientôt pour une nouvelle émission, et d'ici là, que la musique vous guide.